Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9R3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié d'abord chez Grasset en 1996, puis repris en poche. Traité de l'efficacité est un essai de philosophie comparé dans lequel François Julien, philosophe helléniste et sinologue, interroge les façons de concevoir l'action efficace. Son propos ne consiste pas à proposer une méthode de gestion ni un manuel de stratégie. Il met plutôt en regard deux cadres intellectuels, une tradition européenne qui pense volontiers l'action à partir d'un but, de moyens choisis et d'une volonté qui les met en œuvre, et des textes chinois anciens qui privilégient l'évaluation d'une configuration, son potentiel et sa transformation progressive. S'appuyant notamment sur Sun Tzu, Sun Bin, Han Feizi et Giguzi, Julien examine les implications de cet écart pour la guerre, la diplomatie et l'exercice du pouvoir. L'ouvrage cherche ainsi à rendre visible ce que les habitudes occidentales laissent souvent à penser une efficacité pouvant résulter moins d'un acte spectaculaire que d'un processus. Préparé, discret et peu coûteux en résistance. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, du schéma but, moyen, résultat au potentiel propre de la situation, le contraste directeur du livre oppose deux manières d'organiser l'efficacité. Dans le modèle occidental reconstruit par Julien, l'acteur commence par définir une fin, conçoit un modèle de l'action à accomplir, puis mobilise les moyens nécessaires pour réduire l'écart entre le réel et son objectif. Cette logique valorise la décision, le projet et la capacité d'imposer une forme à une situation. Elle est familière parce qu'elle structure aussi bien une partie de la philosophie européenne que les pratiques modernes de planification. Julien ne la traite pas comme une erreur, mais en montre les présupposés et le coût elle peut conduire à affronter directement ce qui résiste et à surévaluer l'initiative individuelle. Les textes chinois étudiés déplacent le point de départ. Il ne s'agit pas d'abord de projeter une forme idéale, mais d'observer la configuration présente, les rapports de force, les tendances déjà engagées et les possibilités de les infléchir. L'efficacité dépend alors du potentiel de la situation. Le résultat recherché doit pouvoir découler de la dynamique préparée au lieu d'être arraché par une intervention frontale. Cette comparaison éclaire pourquoi le livre parle autant de pensée du réel que de stratégie. Elle oblige le lecteur à distinguer l'action qui vise un effet de la conduite qui aménage les conditions dont cet effet sortira. Deuxièmement, la propension des choses comme ressources stratégiques. La notion de propension permet à Julien de préciser ce que signifie exploiter une situation sans se contenter de s'y soumettre. Une configuration n'est jamais neutre, la disposition d'un terrain, l'état des forces. Les attentes d'un adversaire ou la maturation d'un rapport politique créent des directions plus ou moins favorables. Le stratège compétent repère ses orientations et les fait travailler à son avantage. Il ne renonce donc pas à orienter les événements. Il agit en amont sur les conditions plutôt qu'au moment visible de l'affrontement. Cette logique explique l'importance des traités militaires chinois dans l'essai. Une victoire est d'autant plus sûre qu'elle est rendue facile par la préparation du dispositif et non obtenue au prix d'un choc incertain. Le mérite ne réside pas prioritairement dans l'exploit héroïque, mais dans la lecture fine de ce qui est déjà en train de se transformer. Julien étend cette idée au pouvoir et à la diplomatie, il faut créer ou accentuer des écarts, modifier les perceptions et rendre une issue progressivement préférable ou inévitable. Le concept ne doit toutefois pas être ramené à un opportunisme passif. Il suppose une attention continue au processus, une capacité d'anticipation et un travail de conditionnement. L'acteur demeure responsable de ses choix, mais il cherche une efficacité qui s'appuie sur les forces disponibles plutôt que de les combattre inutilement. Troisièmement, transformation silencieuse plutôt qu'action héroïque, une distinction décisive traverse traité de l'efficacité, celle entre action et transformation. L'action, dans son sens le plus visible, suppose un sujet identifiable qui intervient, produit un effet et peut revendiquer son initiative. Elle correspond à une représentation dramatique de l'efficacité, souvent associée à la difficulté surmontée, au courage et à l'événement. Julien montre que les textes chinois permettent de penser une autre temporalité. Une transformation peut être graduelle, diffuse et presque imperceptible. Elle agit en modifiant les conditions de telle sorte que le résultat apparaisse finalement sans rupture spectaculaire. L'image de la croissance aide à comprendre l'enjeu. On ne force pas une plante à pousser en tirant dessus, mais on favorise les conditions de son développement. Dans le domaine stratégique, cela signifie préparer longtemps une situation où l'opposition perd de sa nécessité ou de sa force. Cette conception ne célèbre pas l'inaction au sens de l'abstention. Elle valorise au contraire une intervention réglée, précoce et indirecte, attentive aux signes faibles et aux évolutions lentes. La formule du ne rien faire ne doit donc pas être comprise comme une invitation à la passivité. Elle désigne l'art de ne pas ajouter une contrainte inutile à un processus déjà favorable. Par cette analyse, Julien interroge la tendance occidentale à ne reconnaître l'efficacité qu'à ce qui est visible, volontaire et immédiatement attribuable à un agent. Quatrièmement, l'occasion, non comme hasard, mais comme aboutissement d'une tendance, l'occasion occupe une place centrale dans l'analyse de Julien. Mais elle reçoit un sens plus exigeant que celui d'une simple chance à saisir. Dans une conception centrée sur le projet, l'occasion peut sembler extérieure au plan elle survient, favorable ou défavorable, et oblige l'acteur à réagir. Dans le cadre chinois que l'essai met en lumière, elle est plutôt le moment où une tendance longuement amorcée devient exploitable. Elle ne se sépare donc ni de l'observation des transformations, ni de la préparation des conditions. Voir l'occasion suppose d'avoir suivi la maturation d'une situation et d'avoir reconnu le point où un effort limité peut produire un effet décisif. Cette perspective modifie le rapport au temps. Au lieu de fixer d'abord une échéance et de contraindre le réel à s'y conformer, le stratège attend le moment où la configuration offre le moins de résistance. L'anticipation n'est pas une prédiction rigide de l'avenir. Elle consiste à discerner les inflexions en cours. Julien oppose ainsi la projection d'un objectif à l'attention aux signes précurseurs. L'intérêt intellectuel de cette distinction est de montrer qu'une décision pertinente ne dépend pas seulement de la volonté ou de l'information disponible, mais de sa justesse temporelle. Sur le plan pratique, le livre invite à examiner si une difficulté doit être attaquée immédiatement ou préparée en modifiant d'abord le contexte qui la rend difficile. En dernier lieu, de la persuasion à la manipulation et à l'efficience sans dépense, Julien suit les conséquences politiques de cette pensée de la situation. Lorsque l'on cherche à obtenir un effet par persuasion, on s'adresse explicitement à un interlocuteur afin de le convaincre par des raisons, des arguments ou des injonctions. La manipulation, au sens analytique mobilisé dans l'ouvrage, procède autrement, elle configure les rapports, les informations et les dispositions de manière à orienter le comportement d'autrui sans faire de la confrontation argumentative son centre. Les textes stratégiques et diplomatiques examinés par Julien montrent ainsi comment réduire l'adversaire à la réactivité, préserver sa propre souplesse et rendre son choix prévisible. Cette dimension impose une lecture critique. L'essai éclaire les ressorts du pouvoir, mais ne transforme pas ses procédés en normes morales ou en recettes légitimes. Il donne plutôt des instruments pour comprendre pourquoi l'influence peut être d'autant plus opérante qu'elle demeure discrète. La métaphore de l'eau résume cette logique, elle contourne les obstacles, épouse les formes et passe là où la résistance est moindre. L'idéal recherché est une efficience qui produit beaucoup d'effets avec peu de dépenses et peu de heurts. Cette économie de l'effort se distingue d'une simple recherche de facilité personnelle. Elle exige un diagnostic précis de la configuration et une préparation patiente. En reliant guerre, diplomatie et gouvernement, Julien fait apparaître l'unité d'une réflexion sur les conditions indirectes de l'action. En conclusion, Traité de l'efficacité s'adresse aux lecteurs de philosophie comparée, de pensée stratégique, d'histoire des idées et de sciences politiques. Mais il peut également intéresser ceux qui réfléchissent aux décisions collectives, aux changements organisationnels ou à la négociation. Il ne faut pas l'aborder comme un guide immédiatement applicable, le livre demande de suivre des distinctions conceptuelles et de suspendre les réflexes habituels qui associent efficacité, volontarisme et action visible. Son bénéfice principal est moins de livrer une technique que de déplacer le regard, en opposant but et conséquence. Action et transformation, persuasion et conditionnement, Julien aide à diagnostiquer les présupposés d'une culture de la planification et de l'affrontement. Il offre simultanément des repères pour penser l'anticipation, le choix du moment et l'économie des forces. L'ouvrage se distingue des vulgarisations de Sun Tzu et des manuels de management qui empruntent à la Chine des maximes isolées. Son centre de gravité est philosophique, les textes chinois servent de détour pour interroger les catégories européennes de l'action, non de réservoir exotique de recettes. Par rapport aux comparaisons culturelles sommaires, sa force réside dans l'attention accordée aux opérations intellectuelles qui rendent certaines stratégies pensables et d'autres moins visibles. Cette ambition explique à la fois son intérêt durable et sa densité. Le lecteur y gagne une grille critique pour examiner les situations avant de vouloir les maîtriser. Si vous souhaitez soutenir François Julien, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.